L'été avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous sommes vendredi, c'est donc la Libre Antenne. Dans 30 minutes, vous pourrez commenter tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Je vous cache pas que une fois de plus ce matin, vous êtes très nombreux à souhaiter commenter l'incarcération de Khalifa Sall, le maire de Dakar, accusé de détournement de fonds publics. Ses avocats, vous le savez, dénoncent un complot politique. Nous vous donnerons la parole. Je le constate, depuis 24 heures maintenant, les supporters du PSG et du Barça se mobilisent aussi bien au Standard que sur la page Facebook de l'émission pour commenter le fiasco de mercredi soir, le fiasco des Parisiens, éliminés donc en huitième de finale, élimination historique, malheureusement pour les Parisiens, heureusement pour les Catalans, là aussi nous en parlerons, d'ailleurs on a des questions sur ce match historique de mercredi, nous aurons évidemment Hugo Moissonnier qui était sur place au Camp Nou à mes côtés dans quelques instants, il répondra à quelques-unes de vos questions, que vous voyez encore des réactions sur la campagne électorale française. Et oui, le feuilleton Fillon vous intéresse, il ne vous laisse pas indifférent. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous lancez le débat sur le sujet de votre choix. 33 9 693 693 70, j'ai la langue qui fourche. Et les réseaux sociaux, la page officielle, la page RFI, appel sur l'actualité. Mais d'abord, vos questions. Donc, on va commencer avec une question concernant la Hongrie après le vote d'une loi. Cette semaine par le Parlement hongrois à Budapest. Bonjour Raph.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs du RFI.
Vous nous appelez...
Le Parlement hongrois... Je vous appelle de Brazzaville.
De Brazzaville au Congo, soyez le bienvenu.
Oui, effectivement. Le Parlement hongrois a adopté une loi pour rétablir la mise en détention systématique de tous les demandeurs d'asile se trouvant sur le territoire national. Elle prévoit concrètement cette loi sur les conditions de détention face au non-respect des principes communautaires par Budapest. L'Union européenne a-t-elle une marge de manœuvre pour contraindre la Hongrie de revoir sa politique sur l'accueil des réfugiés?
Alors l'Union européenne et l'ONU qui ont déjà exprimé leurs inquiétudes. Bonjour Tudor Tepeneag.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. On se souvient qu'il y a maintenant 4 ans, la Hongrie avait supprimé la mesure qu'elle vient à l'instant d'adopter. On va essayer de comprendre tout cela. Cette loi, je cite, elle vise à maintenir en détention et à mettre en détention systématique tous les demandeurs d'asile présents dans le pays. Concrètement, comment cela se traduit dans les faits?
Ouais, disons d'abord qu'il y a à peu près 600 demandeurs d'asile sur le territoire hongrois, donc on va les mettre pas en prison, mais dans des zones de transit, on appelle ça des zones de transit qui se trouvent aux frontières avec la Serbie et la Croatie, dans des conteneurs, donc dans des conditions pas très très dignes, et puis entourés de barbelés, donc ils seront en détention, et leur seule possibilité de sortir de là, ce sera de retourner dans les pays d'où ils sont venus. J'entends des pays de transit comme la Serbie ou la Croatie. Donc ça s'applique aux 600 demandeurs d'asile qui se trouvent en Hongrie et à ceux qui viendront dans le pays à l'avenir.
Oui, puisque pour l'instant, avant que cette loi soit adoptée, les demandeurs d'asile étaient logés dans des centres d'accueil. Désormais, ils sont donc dans ces conteneurs situés dans des zones de transit. Ils y resteront le temps que leur dossier sera traité. C'est-à-dire que la période peut s'éterniser.
Et la période peut être assez longue, plusieurs mois, voire au-delà d'un an, selon les cas. Et puis ce qui interpelle, évidemment, c'est le fait qu'on fait retourner dans ces centres-là qui s'apparentent à des prisons. On ne voit pas bien quelle est la différence avec...
C'est une prison à ciel ouvert, finalement.
Une prison à ciel ouvert, c'est-à-dire ils sont dans des conteneurs, mais ils sont entourés de barbelés. Donc si ça n'est pas une prison, on se demande ce que c'est. Et donc ce qui interpelle aussi, c'est le fait que des gens qui étaient logés dans ces centres d'accueil seront obligés d'y retourner, comme si on les avait pas soumis à des contrôles sur l'identité, etc. Donc il y a une volonté assez claire de les humilier. Et d'ailleurs, l'Europe, elle a réagi, l'Union européenne.
Oui. L'Europe a réagi avant de voir quels sont justement les différents moyens moyens de pression que dispose de l'Union européenne pour contraindre Viktor Orban, le Premier ministre, à revenir sur cette mesure. Ce n'est pas la première fois que Viktor Orban provoque ainsi ses partenaires européens. Que cherche-t-il exactement ?
C'est difficile à dire. En tout cas, c'est un autocrate. C'est quelqu'un qui, depuis sa prise de pouvoir il y a quelques années, soutenu par une très large majorité au Parlement hongrois, il s'est inscrit en faux par rapport aux principes fondateurs même de l'Europe, par rapport aux droits de l'homme, par rapport aux principes de la démocratie. Mmh. C'est-à-dire qu'il a essayé sans cesse de prendre en main, de contrôler toutes les institutions. Et là, sur les migrants, c'est aussi une position populiste qui plaît à beaucoup de gens dans le pays. D'ailleurs, ça a été voté à une large majorité au Parlement de Budapest. Essaye d'imprimer sa marque et puis de durer politiquement.
Et puis, pas pour justifier, mais pour essayer de comprendre un peu la position de la population hongroise, il faut quand même rappeler qu'au plus fort de la crise migratoire, donc en 2015, plus de 400 000 personnes ont transité par ce pays, par la Hongrie. Donc, d'où peut-être aussi l'exaspération d'une grande partie de la population.
Oui, tout à fait. On se rappelle de cette crise migratoire. Tous les migrants qui venaient via la Grèce, via les Balkans, pour se rendre principalement en Allemagne et en Autriche, transitait par la Hongrie. La Hongrie est là, cette position-là, c'est un carrefour, c'est un pays de transit. D'ailleurs, il faut dire que ces gens-là ne voulaient pas rester sur le territoire hongrois, mais peu importe, on voulait pas d'eux, donc on voulait pas qu'ils mettent les pieds en Hongrie.
Ouais. Raph nous demandait quelle est la marge de manœuvre de l'Union européenne pour contraindre la Hongrie à revoir sa politique sur l'accueil des réfugiés.
Mais apparemment, cette marge de manœuvre, elle est pas très large. Ce que l'on sait, c'est que Bruxelles a annoncé une visite très prochaine du commissaire chargé des migrants, qui est Dimitris Avramopoulos. Il doit se rendre à Budapest pour avoir une discussion sérieuse, selon les termes. On ne peut pas vraiment contraindre Viktor Orban à changer. Et d'ailleurs, je ne vois pas comment, après ce vote au Parlement, il pourra changer facilement.
Et pourtant, Tudor Tepeneac, je le disais tout à l'heure, il y a 4 ans, cette mesure, la même mesure était en vigueur, elle avait été supprimée sous la pression justement de l'Union européenne.
Oui, mais la pression de l'Union européenne, c'est quoi ? Viktor Orban, son parti, il fait partie du PPE, c'est-à-dire des conservateurs. Donc, comme me le disait l'autre jour lors d'une interview un député écologiste, il fait partie du parti de Madame Merkel. Donc ça, c'est un peu difficile, alors que par ses positions, il pourrait se rapprocher de Marine Le Pen, me disait ce même intervenant. Donc c'est assez difficile du point de vue des institutions, mais il y a de la pression, surtout concernant les droits de l'homme, et il y a aussi les Nations Unies qui ont fait pression. Il y a le Conseil de l'Europe, qui n'est pas l'Union Européenne, qui fait pression tout simplement parce que cette loi, elle contrevient aux principes liés aux droits de l'homme.
Raph, on a répondu à vos questions.
Merci beaucoup, Gomez. Je vous remercie énormément pour toutes les explications.
Merci à vous. On vous souhaite une belle journée à Brazzaville. À bientôt, Tudor Tepeneac.
À bientôt.
Il est 9h18 à Paris. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité et la libre antenne, évidemment, dans la foulée. Boubacar, bonjour.
Oui, bonjour, Anne Gomez, ainsi que toute la rédaction des RFI.
Alors, on va tendre l'oreille, le réseau téléphone n'est pas très bon avec Bamako. Vous avez des questions, vous, sur la reconquête de la cité antique de Palmyre par les forces de Bachar el-Assad?
Oui, c'est bien ça. Au fait, je voulais savoir, avec nous, avec cette nouvelle reprise par le régime syrien, avec l'accompagnement de l'aviation russe, quelles sont les mesures prises par le régime syrien pour éviter que la cité antique ne tombe entre les mains de l'État islamique? Et éventuellement, quels sont les dégâts constatés?
Alors ça, c'est une bonne question sur les moyens mis en place aujourd'hui pour éviter que Palmyre ne retombe aux mains des djihadistes, puisqu'en 2 ans, quand même, Palmyre est tombé 2 fois, est passé 2 fois sous le contrôle de l'organisation de l'État islamique, et à 2 reprises, elle a été reprise par le régime syrien. Bonjour Hasni Abidi.
Bonjour.
Vous êtes politologue spécialiste du monde arabe, vous êtes le directeur du centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Comment être sûr que Palmyre ne passera plus sous le contrôle de l'organisation de l'État islamique ?
On n'est pas sûr, justement, d'une reprise éventuelle de la ville de Palmyre. Mais ce qui est rassurant aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté d'abord de la part du régime syrien de consolider une présence militaire vu l'état prometteur de l'armée syrienne après la reprise d'une autre grande ville qui est Alep. Le deuxième élément, c'est bien sûr le stationnement de forces russes pas très loin. Encore un élément, c'est que l'État islamique aujourd'hui, il est dans une situation ou dans une posture de défaite puisque son territoire se rétrécit. Il y a probablement une hémorragie au sein du groupe de l'État islamique et Palmyre ne constitue pas une priorité stratégique pour ce groupe. D'ailleurs, l'Observatoire des droits humains et des droits de l'homme en Syrie, il parle plutôt d'un retrait de l'État islamique. Il ne s'agit pas vraiment d'une libération. Comment libérer une ville qui t'offre franchement dans un désert très peu peuplé? Je pense qu'il y a une conjoncture d'abord d'un bombardement de l'aviation russe et de la présence syrienne, mais aussi une volonté du groupe Daesh de se retirer de cette ville qui ne lui apporte pas grand-chose.
Est-ce que ça signifie, Esni Abidi, que les habitants de Palmyre vont pouvoir retourner chez eux?
Ça, c'est la grande crainte. On savait qu'il y a autour de ce joyeux d'héritage de Moyen-Orient un site archéologique hors normes. 50 000 et 60 000 habités autour de cette autour donc du musée, autour de Palmyre, vivaient de tourisme, vivaient un petit peu de l'agriculture. Ils ont besoin d'être rassurés et c'est loin d'être acquis. Le deuxième élément, c'est que on sait qu'il y a d'autres endroits, il y a d'autres poches qui sont pas très loin d'ici et qui sont le théâtre de plusieurs affrontements entre soit des groupes radicaux ou entre des groupes radicaux et les forces du gouvernement. Donc la situation est loin d'être sécurisée autour justement de Palmyre pour permettre un retour terrain et qui s'inscrit dans la durée dans cette région.
D'ailleurs, les forces de sécurité syriennes sont en ce moment même en train de déminer les alentours de Palmyre. En quelques mots, Esni Abidi, Boubacar nous demandait si on avait connaissance des dégâts causés ces trois derniers mois par les djihadistes.
Alors oui, il y a des dégâts importants. Madame Boukouva a utilisé un mot très fort quand elle a dit que ce qui s'est passé à Palmyre, c'est un saccage et c'est un nettoyage culturel. Le mot est fort et très important, mais on sait que par exemple que le temple de Baal Shammah a été détruit, le temple de Bel, hein, qui est les tours funéraires, l'Arc de Triomphe aussi, hein, qui nous renvoie à l'Arc de Triomphe français, et qui ont été saccagés. Mais il faut être honnête ici, Juan Gomez, pour dire que le trafic d'antiquités n'est pas récent. Déjà sous le régime, avant 2015, il y avait un trafic immense autour de Palmyre. Et bien sûr, le pilonnage des forces du gouvernement et ensuite l'aviation russe a quand même causé beaucoup de dégâts dans le temple de Bel et d'autres sanctuaires.
Merci beaucoup, Esni Abidi, d'avoir été avec nous en direct de Genève. Où vous dirigez le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. On va passer à un tout autre sujet, plus léger. Hugo Moissonnier, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes rentré hier, en début d'après-midi, de Barcelone. Vous étiez sur place, au Camp Nou. Grâce à vous, nous avons vécu en direct sur l'antenne des RFI les dernières minutes du match Barça-PSG, les dernières minutes où tout a basculé finalement. On a plusieurs questions évidemment pour tenter de comprendre l'inexplicable. Mamadou, vous êtes en région parisienne, bonjour.
Bonjour Anne Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On vous écoute.
D'accord, suite à l'élimination historique du PSG face au RC Barcelone, ça suscite des questionnements. Donc moi, j'aimerais savoir pourquoi le coach du PSG, Emery, n'a pas répondu le 11 joueurs titulaires du match aller. Et bien entendu, pourquoi Emery, après avoir pris un but matinal dans le jeu, n'a pas adopté un système de bloc défensif.
Ouais. Donc à vous entendre, visiblement, Mamadou, le responsable de cet échec n'est autre que l'entraîneur et ses choix tactiques. Hugo Moissonnier, qu'en pensez-vous?
Alors concernant le 11 de départ, moi il m'a semblé assez cohérent et je pense qu'il a semblé cohérent à pas mal de monde. Il y a eu deux changements. Le capitaine Thiago Silva est rentré en défense centrale à la place de Kimpembe, un jeune joueur qui avait été très bon au match aller. Faire revenir le capitaine à la place d'un jeune joueur, ça paraît pas scandaleux a priori sur le papier. L'autre changement, on peut le discuter. Lucas était titulaire en ailier droit à la place de Di Maria. Di Maria, il a longtemps été incertain avant la rencontre l'ailier argentin. Donc ne pas le faire débuter, ça c'est un choix qui est vraiment celui du coach, qui a peut-être des données que nous on n'a pas. Est-ce que Di Maria aurait été meilleur que Lucas? Lucas il a pas été bon, c'est sûr, mais ils ont tous pas été bons, donc globalement ça c'est ce serait vraiment injuste de le pointer de lui.
Mais le fait que le Barça parvienne à inscrire un but à la troisième minute, un but matinal pour reprendre l'expression de Mamadou, dès la troisième minute, hein, c'est la troisième minute. Est-ce que Unai Emery n'aurait pas dû changer justement de tactique?
Alors ce qui est sûr, c'est que le Barça, lui, avait changé de tactique par rapport au match aller, puisque depuis quelques matchs, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils sont passés de leur traditionnel 4-3-3 à un 3-4-3. Et c'est vrai que Unai Emery ne s'est pas adapté à ce changement tactique du Barça. Il a notamment laissé un milieu de terrain à 3, le même qu'au match aller, Rabiot, Verratti, Matuidi. Et contrairement au match aller où ce milieu de terrain avait été rayonnant, là il a été en dessous de tout. En tout cas, il a été écrasé par celui du Barça. Alors, est-ce que Unai Emery aurait dû jouer plus défensif? Moi, j'ai envie de vous dire que l'impression que j'ai eue des tribunes, c'est que le PSG et Unai Emery ont subi les événements. Ils n'ont pas du tout réussi à imposer leur jeu. Jouer plus défensif, je suis pas sûr. A priori, si on écoute le milieu de terrain Adrien Rabiot, l'idée c'était de jouer plus haut comme au match aller.
Bien sûr.
Ils n'ont pas été en mesure de le faire. Je suis pas sûr que reculer aurait été garer le bus comme on dit devant les buts aurait été une solution. Ils ont déjà beaucoup reculé les Parisiens, ils ont subi les événements et ça leur a pas du tout réussi.
Incapable de défendre, incapable de construire. On a une autre question qui nous arrive au standard. Xavier, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à toute la rédaction de RFI.
Merci, vous nous appelez d'Abidjan.
Oui, c'est ça.
On vous écoute.
Ma question est de savoir, le FC Barcelone, après avoir réalisé cette remontée historique, ce qui n'a jamais été vu d'ailleurs en Champions League, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce club-là est grand favori pour la victoire finale devant les habituels favoris que sont le Real Madrid et le Bayern de Munich.
Ouais, déjà, c'est le sixième quart de finale consécutif en Ligue des Champions pour le Barça. Le Barça est grand favori cette année.
Alors forcément, quand on réussit un exploit inédit dans l'histoire des Coupes d'Europe, on se pose en favori. De toute façon, le Barça globalement est toujours un peu favori. On parle quand même d'un club qui, depuis 2006, a gagné 4 Ligues des Champions. Après, ce qui est paradoxal dans la performance du Barça mercredi, c'est que le Barça a pas si bien joué que ça.
Oui, oui, oui. Messi n'était pas extraordinaire.
Messi a été bien bloqué.
Inexistant la première mi-temps.
Ça, c'est un bon point pour tactique pour le Paris Saint-Germain. Ça n'a servi à rien au final. Mais Messi a été plutôt bien bloqué. Le problème, c'est que Neymar, lui, il a pas été bloqué et Neymar a été rayonnant, notamment en fin de match. Alors, le Barça n'a pas été si rayonnant. D'habitude, on a un jeu léché, offensif, de beaux buts, avec de belles actions collectives. Là, on n'a pas forcément eu ça. Plutôt des buts de raccro, si vous me passez l'expression, notamment les premiers buts. Le premier but, celui de Suarez. Mais en même temps, il est assez symbolique, ce but, puisque c'est un but plein de grinta. Là où la défense parisienne a été tétanisée et fébrile, bah lui, Luis Suarez, fidèle à lui-même, il s'est engagé à fond. Il est allé jouer un ballon que peut-être d'autres attaquants ne seraient pas allés jouer. Et c'est peut-être cet esprit conquérant. Ça, c'est quelque chose peut-être d'assez nouveau pour le Barça. C'est peut-être une corde de plus à son arc. Et ça, effectivement, ça peut être intéressant pour aller chercher la victoire finale. Après, on en est encore loin, parce qu'il reste les quarts, les demi et la finale.
Un commentaire, Hugo Moissonnier, on rend l'antenne à la rédaction. Fabian, sur Facebook, nous dit il est à Lomé, au Togo. Nous, les supporters du PSG, sommes tellement déçus. Deux pénaltys non sifflés pour Paris et deux offerts gratuitement au Barça. C'est du Barça arbitrage.
Alors, ce qui est sûr, c'est que apparemment les supérieurs de l'arbitre n'ont pas non plus apprécié son arbitrage. De là à parler d'un vol, je trouve ça un peu exagéré. Certes, le deuxième pénalty sifflé à l'encontre du PSG est discutable. Le premier, je trouve un peu moins. Et puis, globalement, la prestation des Parisiens ne leur autorise pas à se plaindre uniquement de l'arbitrage. Ça a été évoqué après en zone d'interview, mais très vite, les joueurs et le président ont reconnu que l'équipe n'avait pas été à la hauteur. C'est surtout ça le problème.
Merci beaucoup, Hugo Moissonnier. Et juste après le journal, on continuera avec vous, auditeurs, à parler de cette humiliation que le PSG a subie mercredi dernier. Oui, de l'humiliation.
Priorité santé.